au Capi Servi.
Okapi, Radio Okapi.
ONG partenaire.
Voilà, bonjour Tati.
Bonjour.
Vous nous amenez dans le secteur de la société civile et surtout dans le monde des ONG.
Ouais.
Aujourd'hui, nous découvrons quelle ONG.
En fait, ensemble, nous allons faire le point des activités d'une organisation non gouvernementale des droits internationaux qui travaille dans pratiquement plus de 80 pays à travers le monde. Et l'organisation s'appelle Zoological Society of London, donc ZSL, en sigle pour la petite histoire JR. Depuis son implantation en République démocratique du Congo, cette ONG travaille dans le secteur de la conservation et de la préservation des écosystèmes en partenariat avec l'Institut national de conservation de la nature, spécialement dans les secteurs, dans les aires protégées.
Oui, signalons que cette ONG a été implantée en RDC en 2003.
Voilà.
Et d'ailleurs, nous avons en ligne John Fataki, administrateur logisticien de ZSL, pour de plus amples détails. Bonjour, Monsieur John.
Oui, bonjour, Monsieur Porter.
Alors, d'entrée de jeu, on peut avoir une idée sur les raisons qui ont motivé l'implantation de cette structure en RDC?
Oui, la Zoological Society of London a financé des projets de recherche en RDC depuis les années 1930.
Ouais.
Plus précisément, c'était en 1901 avec la découverte de l'okapi dans la forêt de l'Ituri. Et c'est comme ça que les premiers spécimens d'okapi ont été attrapés pour être envoyés au zoo à Londres pour identification. Et alors, c'est toujours dans le même ordre d'idées que la ZSL a continué à financer d'autres projets de recherche en RDC. Et c'est comme ça que nous avons commencé d'abord par des études sur le trafic des viandes de brousse. Et avec d'autres fonds, nous avons pu maintenant appuyer de façon beaucoup plus consistante l'Institut congolais pour la conservation de la nature, plus précisément dans le parc de Virunga et aussi quelques appuis d'urgence qui ont été faits au parc de Sagaramba.
Et quels sont les quelques projets réalisés dans des aires protégées de la RDC parce que vous travaillez pour la protection de la faune, de la flore, de tous ces aires?
Principalement, c'était des projets axés sur le renforcement des capacités du personnel de l'ICCN.
Oui.
Nous avons fait des formations pour les agents et cadres de l'ICCN. Et nous avons pu, avec le fonds du 9e FED, à travers un gros projet qui était axé sur les réhabilitations et l'appui d'urgence au parc national de Virunga et de la Garamba, nous avons fait des réhabilitations au parc national de Virunga dans la station de Mutsora, c'est au nord. Par exemple, nous avons réhabilité les camps de garde, le bâtiment administratif, nous avons fait l'adduction d'eau au niveau de la station, ainsi que d'autres réhabilitations à la station du Chango. Mais en dehors des réhabilitations, nous avons aussi fait, comme je vous ai dit, des formations. Nous avons aussi donné des équipements pour les patrouilles, aux gardes, ainsi que des rations, des médicaments. Et bien sûr, le financement de l'Union européenne prévoyait aussi une petite prime pour motiver les gardes parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles.
Et du côté de la population qui vit dans la périphérie de ces aires protégées, que faites-vous? Parce que généralement, ce sont cette population-là qui s'y rabat au bien de la réserve.
Tout à fait, tout à fait. Par rapport à ces populations, nous avons jusqu'ici... nous nous sommes d'abord concentrés sur la sensibilisation parce qu'ils ont besoin d'être informés sur l'importance du parc. Alors maintenant, nous sommes en phase de préparation d'un grand projet d'envergure et de population pour aller au-delà de la sensibilisation, c'est-à-dire nous voudrions les aider à développer des activités alternatives comme par exemple des cultures beaucoup plus rentables pour qu'économiquement elles puissent avoir beaucoup plus de revenus et essayer de réduire un peu la pression sur le parc par rapport aux protections des ressources humaines. Alors ça, c'est en dehors du parc. D'un autre côté, à l'intérieur du parc, nous appuyons aussi des patrouilles pour permettre aux éco-gardes d'assurer une meilleure surveillance du parc, de sorte que quand même on puisse éviter les entrées clandestines des populations pour aller utiliser et exploiter les ressources naturelles.
Et qu'est-ce que fait, en fait, j'aimerais savoir, parce que la population, c'est toujours la population qui vit dans les périphéries qui recourt à la réserve. Et est-ce que je peux avoir une idée sur les activités alternatives que vous initiez en leur faveur et faire un tableau de la situation générale des aires protégées actuellement? Est-ce que c'est vraiment bien conservé, bien préservé?
Donc, comme vous savez, le plus grand problème de la population autour du parc, c'est la pauvreté qui est le problème central. Et alors, si c'est cette pauvreté qui les pousse à entrer dans les parcs parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir la viande de bouc qui constitue une source de protéines qui ne peut pas être procurée autrement, ou par exemple, ils peuvent vendre ces produits et ça leur apporte un peu de cash pour un peu sa survie, ou alors même pour chercher d'autres sources comme le bois pour l'énergie et tout cela. Donc, mais le point central tourne autour de la pauvreté. Et alors, c'est ainsi que nous, en parlant d'activités alternatives, nous faisons ce qu'on appelle des ateliers participatifs avec ces populations et nous essayons ensemble d'identifier quelles sont les activités principales. Et sur base de leurs activités principales, nous pouvons essayer de voir en termes de priorité qu'est-ce qui peut être fait pour les aider à avoir un niveau de revenu beaucoup plus élevé pour changer un peu leur standing de vie. Ainsi, nous pensons que cela peut réduire la pression autour du parc. Alors ça, c'est un programme que nous sommes en train de mettre en place en partenariat avec d'autres organisations de conservation comme le WWF, WCS, et il y a aussi une compagnie qu'on appelle ESCO qui fait la promotion de cacao. Alors, le cacao rapporterait plus de revenus aux populations. Alors, ce sont ça que nous étudions les alternatives, si elles peuvent se mettre à cultiver le cacao en rapport avec autour du parc. Alors, de la sorte, est-ce qu'on pourrait racheter cette production? Alors, ça permet aussi à ces populations d'avoir beaucoup plus de revenus.
Oui, Monsieur John Fataki, on va terminer peut-être par là parce qu'on se rend compte que vous avez beaucoup de défis à relever et avec l'appui de vos partenaires, je crois que vous y arriverez. Mais nous sommes sûrs que vous avez un cahier des charges.
Oui, tout à fait. Bon, vous savez, notre partenaire principal qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, avec qui nous avons des principes de partenariat, des principes de collaboration et qui oriente nos actions sur le terrain. Et c'est sur base de ça que même nous faisons la recherche de fonds pour...
Donc vous recherchez des fonds ensemble et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les résultats celui escompté. Merci John Fataki et nous rappelons que vous êtes administrateur logisticien à l'ONG ZCL, donc entendu par là zoologique.
Entendu par là en français la Société Zoologique de Londres.
Voilà, voilà l'anglais Zoological Society of London. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.